Donc, Marc 6, les versets 1 à 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Les disciples le suivirent. Quand le Shabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ? » Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Et il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il les guérit. Ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Seigneur, ta parole est source de vérité, sanctifie-nous par la vérité. Mes amis, aujourd'hui, dans notre évangile du jour, Jésus prêche. Pour connaître le contenu de ce qu'il prêche, on peut aller voir dans Luc au chapitre 4, et on en saura un peu plus. Matthieu parle aussi de cette petite histoire dans le chapitre 13, à la fin de son chapitre. Et le point commun dans les trois évangiles est l'insistance sur la réaction des gens qui étaient là. Ici, justement, l'auteur, Marc, n'a rien retenu, mais rien du tout, du discours de Jésus. Il n'en dit absolument rien, mais seulement les réactions des auditeurs. La foule est étonnée, frappée de son enseignement, et puis, après cet étonnement, le rejet. Pourquoi ? Tout bascule sur cette question, qui revient d'ailleurs dans les trois versions. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie ? Le frère de Jacques, de José, de Judas et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Jésus, dont la famille habite le village, manque d'exotisme pour qu'on puisse se laisser déplacer par lui, pour qu'on supporte d'être étonné par cet homme-là. Il est trop familier, celui-là, parmi les habitants de Nazareth, et pour qu'il se laisse toucher, ce jour-là, dans la synagogue, par l'enseignement de Jésus. Mais n'allons pas trop vite et reprenons dans le détail. Jésus est en voyage sur les routes de Galilée et c'est le début de son ministère. Et le passage que nous avons lu nous laisse entendre que Jésus ne s'attarde jamais beaucoup au même endroit. Le récit commence par raconter que Jésus se déplace pour aller dans sa ville, à Nazareth, dans sa patrie, et il se termine en montrant Jésus parcourant les villages des environs en enseignant. Le séjour à Nazareth n'a pas dû être très long, mais les paroles échangées et ce qui s'y déroule ce jour-là dans la synagogue a suffisamment marqué les esprits pour que les trois évangélistes aient décidé de nous rapporter cette histoire. Alors, Jésus est de passage chez lui, dans son village natal, et voilà qu'arrive le jour du Shabbat. Tous donc se rendent à la synagogue pour le culte. Jésus y va donc aussi avec toute sa famille. C'est la coutume, il est juif et il suit la coutume avec ses parents. Le culte à la synagogue, vous le savez sans doute, a été repris par l'Église plus tard. Donc il s'agissait un peu de la même chose. Ça s'ouvrait sur une confession de foi, le fameux Shema Israël. Écoute Israël, mais nous aussi on a une prière qui nous invite à écouter. Et puis beaucoup de prières, des bénédictions. Et puis bien sûr aussi une lecture de la Bible, enfin la Torah, l'Ancien Testament, et puis ensuite quelqu'un commente le texte du jour. Ça nous est très familier quand même. Alors le plus souvent c'est le rabbin du lieu pour ceux qui fait ce commentaire, mais pas toujours, puisque de temps en temps il est de coutume de laisser quelqu'un d'autre qui est de passage parler ce jour-là et de lui donner la parole, celui qui est donc invité. Et puisque Jésus est un enfant du pays, puisqu'il se trouve là et puisque sa réputation l'a précédé, eh bien on lui donne la parole parce qu'on veut en profiter pour l'écouter et pour savoir ce qu'il a à dire. Et pour nous, Alors, parce que l'Évangile nous y invite, ce qui est intéressant, c'est d'observer les réactions des gens du pays qui sont là. Et ces gens que Jésus connaît bien, pour la plupart depuis leur plus tendre enfance, c'est de les écouter et d'essayer d'en tirer des leçons pour nous. Alors, dans un premier temps, donc, cet auditoire est plutôt admiratif. C'est comme ça, en tout cas, qu'on peut comprendre l'étonnement que évoque l'évangéliste. Admiratif de sa sagesse, admiratif aussi de ses connaissances, de la manière dont il interprète les textes. Et puis, les gens ne l'entendent pas seulement prêcher, ils le voient faire aussi des miracles, ils le voient guérir des malades, et ils voient bien les choses, ils ne nient pas la réalité, ils acceptent et ils admettent, ils reconnaissent tout cela, bien sûr, mais alors, bien contraint d'accepter la vérité, ils se demandent, du coup, d'où lui vient tout cela ? D'où lui vient cette force qui agite en lui ? Et ce sont, à mon avis, de très bonnes questions, et pourquoi pas ? Le problème, c'est juste que, plutôt que d'attendre une réponse spirituelle, ils sont allés eux-mêmes donner des réponses toutes humaines à leurs questions. Parce que dans un deuxième temps, semble commencer un temps de contestation, on pourrait presque dire de jalousie. Ces gens de Nazareth sont donc étonnés par les paroles et par les gestes de Jésus, et de cet étonnement, donc, ils se posent des questions et ils commencent à avoir un problème. Et le problème, c'est qu'ils le connaissent trop bien. Ils savent qui il est, ils ont joué probablement avec lui dans leur enfance. C'est un des leurs, et sans doute connaissent-ils toutes ses qualités, mais aussi les petits défauts, les petits travers qui pouvaient l'animer, on peut imaginer. Il est le fils d'un artisan du village, et justement, c'est là que les choses se gâtent. Jésus est trop connu pour être prophétique chez lui. Et je dis prophétique parce que Jésus lui-même ne s'attribue jamais dans les évangiles le titre de prophète, mais il fait appel bien sûr à l'expérience qui parcourt tout l'Ancien Testament, l'ensemble de l'Ancien Testament jusqu'au moment où ils sont. Il fait appel à leur mémoire, à tous ces porte-paroles de Dieu dans l'histoire, faisant peut-être même là sans doute implicitement référence aux grands prophètes de la Bible. D'ailleurs, Luc, au chapitre 4, nous indique que le passage qui est commenté par Jésus, c'est dans le prophète Ésaïe, au chapitre 61. Donc on a des indications quand même, et on sait de quoi il parle ce jour-là. Marc, lui, n'en parle pas, il se focalise sur ses réactions. Parce que ce jour-là, il enseigne dans la synagogue, ceux qui l'écoutent se posent la question, d'où cela lui vient-il ? Alors c'est très bizarre pour quelqu'un qu'ils connaissent bien. Et le pire, c'est que l'étonnement est une chose, et qui est plutôt une bonne chose, qui pourrait faire monter. Pourtant, là, il s'agit plutôt d'un étonnement qui bascule dans l'incrédulité. Ils ne peuvent même pas reconnaître Jésus, le rabbi, c'est-à-dire celui qui enseigne et qui commente la Torah le jour du Shabbat. Ils ne peuvent même pas reconnaître Jésus, le sage, qui même produit des signes et des miracles de ses propres mains, nous dit le texte. Ils mettent en cause l'origine même de sa sagesse, sans pouvoir deviner une seule seconde que cette sagesse a pu lui être donnée par Dieu lui-même, serait rentrée en lui par Dieu lui-même. Ils n'ont pas du tout cette capacité d'imaginer ça. Ils s'opposent donc à tous ces signes qui attestent de la présence de Dieu en Jésus. Et c'est pour ça que le texte nous dit que Jésus était pour eux une occasion de chute. Et pour nous, une parole prophétique ou un acte prophétique, c'est-à-dire transmis de Dieu par un homme ou une femme à d'autres hommes ou d'autres femmes, qu'est-ce que ça veut dire, et même encore aujourd'hui ? Et puis, est-ce qu'il y en a ? Est-ce que ça existe ? Est-ce que ça pourrait nous toucher, nous rejoindre ? Alors, bien sûr, il doit y en avoir dans notre monde. Et on peut dire avec tout autant d'assurance qu'aujourd'hui, il y a chez les hommes et chez les femmes de notre temps aussi des difficultés à entendre et à reconnaître ces paroles. difficile d'abord de discerner, de déceler, de découvrir dans des paroles toutes humaines cette parole qui vient de Dieu ou cet agir de Dieu parmi nous. Parce que bien sûr, tout ça ne s'arrête pas dans les murs de nos temples et de nos églises. La parole de Dieu est à déceler partout dans notre monde et bien à l'extérieur de nos murs. Et puis, il nous est tout naturellement difficile de laisser place à l'acte prophétique, à ne pas le freiner, de ne pas lui résister. C'est là que l'Évangile nous dit que nous devons nous ouvrir, laisser là nos habitudes, nos routines, et nous laisser déplacer, de nous laisser, laisser en nous une place vacante pour cette parole qui vient d'en haut. Celle qui vient nous interpeller, nous toucher, nous déplacer, nous secouer de la part de Dieu. Eh bien, l'attitude de bien des hommes aujourd'hui rejoint celle des gens de Nazareth qui sont aveuglés, aveuglés non seulement par leur manque de foi, mais aveuglés aussi et surtout par la connaissance intime qu'ils pensent avoir avec Jésus, qu'ils pensent avoir de Jésus. Ils sont devenus incapables de percevoir dans les paroles et les gestes de Jésus, la parole toujours nouvelle et toujours renouvelée de Dieu. Comme ici, cette parole, pourtant, les gens de Nazareth, ils la recherchent, Shabbat après Shabbat, en venant à la synagogue, en écoutant la lecture de la Torah, en écoutant la prédication qui est faite derrière, ils assistent au culte, mais ils ne l'intègrent pas. Ou plutôt, ils ne se laissent pas toucher par la parole de Dieu pour eux. Ils sont près de l'objectif de leur recherche, il est là, et de leur quête. Il est à portée de main, il est à portée de foi, mais ils y restent fermés et obscurcis par la connaissance qu'ils croient avoir de Jésus. Et si on y réfléchit, nous pouvons nous aussi très bien être dans ce cas. Alors pour avoir sans cesse une vision renouvelée de ce que nous dit Dieu en Jésus, il nous faut peut-être simplement changer de lunettes. Il nous faut changer notre manière de voir, notre manière d'écouter la parole. Il nous faut abandonner nos vieilles catégories de pensée, tenter de faire abstraction de toutes nos connaissances, de tout ce qu'on croit savoir sur Dieu et sur Jésus. Il nous faut cesser de plaquer toujours les mêmes étiquettes sur les gens, sur ceux que nous côtoyons, mais sur Jésus, sur Dieu, sur la Bible, les laisser de côté. Il nous faut surtout plutôt essayer de découvrir toujours autre chose, quelque chose de subtil, quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas encore perçu de la personne de Jésus ou dans les paroles qu'il prononce et qu'il annonce. Parce que c'est toujours, il faut en faire toujours une parole pour aujourd'hui. On ne reçoit pas aujourd'hui la même chose qu'on recevra demain, dans une semaine, dans un mois, pourtant en commentant peut-être ou en lisant cette même parole. Mais, comme on disait, c'est bien difficile. C'est bien difficile pour les gens de Nazareth et c'est bien difficile pour nous aussi, tant nos bagages, nos idées préconçues sur Dieu, sur Jésus de Nazareth, tant notre écoute de sa parole se fait, j'allais dire avec des œillères, mais plutôt des filtres dans nos oreilles, nous avons tellement de mal à déceler Dieu dans la parole qui nous est envoyée dans ce Jésus que nous sommes invités à côtoyer. Parce que c'est un effort, ça réclame une écoute active, une écoute spirituelle. Et nous avons peut-être aussi tant de mal et de difficultés à admettre que cette parole puisse venir nous rejoindre et puisse nous être portée par des personnes si peu susceptibles de le faire. Peut-être des proches, des amis, de la famille, des collègues de travail, un chauffeur de bus, un professeur d'école ou d'université, un homeless sur notre route. Le ministère de Jésus et après lui, des apôtres nous montrent combien Dieu se sert des hommes pour agir et pour parler. Et avant eux, celui de tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Jésus est l'incarnation de la parole, vrai homme, nous dit le prologue de Jean. Dieu a besoin d'un support. Il a besoin, pour se faire entendre, d'agir à travers des hommes et des femmes. C'est en tout cas le mode qu'il a choisi pour l'annonce de l'Évangile dans notre Bible. À nous, alors, d'être vigilants, de percevoir, de recevoir, de croire ces paroles qui viennent vers nous, parfois par l'intermédiaire de personnes que nous n'attendions absolument pas, afin de voir, d'entendre les gestes ou les paroles prophétiques qui peuvent nous être adressées aujourd'hui. Tout ça, bien sûr, avec discernement. Peut-être simplement que ce passage nous dit haut et fort qu'il ne faut pas rester sourd et aveugle, rester fermé dans nos préjugés, parce qu'alors, on se prive de l'essentiel. Comme les gens de Nazareth qui avaient le privilège d'avoir Jésus devant eux leur faire une prédication et qui ont pas su et qui sont passés à côté complètement. Et peut-être plus grave, sinon plus dommage, c'est que lorsque nous restons comme ça, sourds et aveugles, que nous sommes remplis de tous nos préjugés, qu'on se prive de l'essentiel, et bien dans la même dynamique, on se prive aussi de la guérison qui va avec. Comme dans ce texte, en tout cas dans l'évangile de Marc. Plus regrettable peut-être aussi, non seulement nous nous en privons pour nous-mêmes, mais nous freinons sa progression dans le monde, nous freinons l'action, nous empêchons l'action de Dieu d'avancer à ce royaume de Dieu, de se répartir, de s'épanouir dans le monde au lieu de la favoriser. Et c'est comme ça d'ailleurs que Jésus, à Nazareth, n'a pu guérir que quelques malades, quelques handicapés, et on peut soupçonner que ces malades-là n'étaient même pas à la synagogue, que c'était des gens du dehors qui étaient très peu considérés comme très peu de choses. Eh bien, sans doute que ces personnes-là étaient les mieux disposées à recevoir en Jésus la présence et la puissance aimante de Dieu qui agissait à travers lui pour eux, et cette puissance qui les a remis debout. Alors pour terminer, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'évangile de Marc nous laisse entendre la déception de Jésus, de ne pas avoir été reconnu comme ce porte-parole de Dieu, comme ce prophète de la part de Dieu, ce prophète pour éclairer leur propre recherche de Dieu. Il est déçu et s'étonne de cette foi qui refuse d'entendre, qui refuse de reconnaître, qui refuse de recevoir, qui refuse de guérir même. De cette parole qui a tant de mal à passer et à bénir, il s'en étonne. Certainement une histoire pour nous servir d'avertissement à nous qui aussi, parfois, pouvons faire obstacle à la révélation de Dieu dans la parole du Christ. Nous pouvons la freiner ou être trop préoccupé par mille choses et l'empêcher d'arriver jusqu'à nous. Alors aujourd'hui même, si la parole de l'Évangile parfois nous semble obscure, nous semble impossible ou difficile à recevoir, et c'est très bien. C'est très bien quand ça arrive, parce que c'est qu'elle nous désinstalle de nos habitudes, et c'est par là qu'il faut commencer. On ne remplit pas un vase qui est déjà plein. Et c'est pourquoi il nous faut alors déposer tout ce que nous croyons savoir et malgré tout avancer, nous ouvrir, rester à l'écoute pour rester disponible, ouvert à toute chance de révélation nouvelle, de progression, de guérison, de direction, de bénédiction de la part de ce Dieu que nous cherchons et que nous écoutons. Amen.